Lettre 12. 1789. Terreur dont je suis frappé. Je me réfugie chez Brongniart. Messieurs de Sombreuil. Pamela. Le 5 octobre. On va chercher la famille royale à Versailles. Je quitte Paris. Mes compagnons dans la diligence. Je passe les monts. L'affreuse année de 1789 était commencée et la terreur s'emparait déjà de tous les esprits sages. Je me rappelle parfaitement qu'un soir où j'avais réuni du monde chez moi pour un concert, la plus grande partie des personnes qui m'arrivaient entraient avec l'air consterné. Elles avaient été le matin à la promenade de Longchamp. La populace, rassemblée à la barrière de l'Étoile, avait injurié de la façon la plus effrayante les gens qui passaient en voiture. Des misérables montaient sur les marchepieds en criant « L'année prochaine, vous serez derrière vos carrosses, c'est nous qui serons dedans !» et mille autres propos plus infâmes encore. Ces récits, comme vous pouvez croire, attristèrent beaucoup ma soirée. Je me souviens d'avoir remarqué que la personne la moins effrayée était Madame de Villette, la belle et bonne de Voltaire. Quant à moi, j'avais peu besoin d'apprendre de nouveaux détails pour entrevoir les horreurs qui se préparaient. Je savais, à n'en pouvoir douter, que ma maison, rue du Gros-Chenet, où je venais de m'établir depuis 3 mois seulement, était marquée par les malfaiteurs. On jetait du soufre dans mes caves par les soupiraux. Si j'étais à ma fenêtre, des grossiers sans culottes me menaçaient du poing. Mille bruits sinistres m'arrivaient de tous les côtés. Enfin, je ne vivais plus que dans un état d'anxiété et de chagrin profond. Ma santé s'altérait sensiblement et deux de mes bons amis, Brongniart l'architecte et sa femme, étant venus me voir, me trouvèrent si maigre et si changé qu'ils me conjurèrent de venir passer quelques jours chez eux, ce que j'acceptai avec reconnaissance. Brongniart avait son logement aux Invalides. Je fus conduite chez lui par un médecin attaché au Palais-Royal et dont les gens portaient la livrée d'Orléans, la seule qui fût alors respectée. On me donna le meilleur lit. Comme je ne pouvais pas manger, on me nourrissait avec d'excellents vins de Bordeaux et du bouillon, et Madame Brongniart ne me quittait pas. Tant de soins auraient dû me calmer, outre que mes amis voyaient beaucoup moins en noir que moi. Mais il était impossible de me rassurer contre les maux que je prévoyais. « À quoi bon vivre? À quoi bon se soigner ? » disais-je souvent à mes bons amis. Car l'effroi que m'inspirait l'avenir me faisait prendre la vie en dégoût. Et pourtant, il faut le dire, si loin que pût aller mon imagination, je ne devinais qu'une partie des crimes qui se sont commis plus tard. Je me rappelle avoir soupé chez Brongniart avec l'excellent monsieur de Sombreuil, alors gouverneur des Invalides. Il nous dit savoir qu'on devait venir s'emparer des armes qu'il tenait en dépôt. Mais, ajouta-t-il, je les ai si bien cachées que je défie bien qu'il les trouve. Ce brave homme ne songeait pas qu'on ne pouvait alors compter que sur soi-même. Comme les armes ne tardèrent pas à être enlevées, il faut croire qu'il fut trahi par les gens de l'hôtel qu'il avait employé. Monsieur de Sombreuil, aussi recommandable par ses vertus privées que par ses talents militaires, s'était trouvé au nombre des prisonniers que l'on devait immoler dans les prisons le 2 septembre. Les assassins accordèrent sa vie aux larmes, aux supplications de son héroïque fille. Mais, atroce jusque dans le pardon, ils forcèrent Mademoiselle de Sombreuil à boire un verre du sang qui coulait à flots devant la prison. Et pendant longtemps, la vue de tout ce qui portait la couleur rouge causait d'horribles vomissements à cette jeune infortunée. Plus tard, en 1794, Monsieur de Sombreuil fut envoyé à l'échafaud par le tribunal révolutionnaire. Ces deux événements ont inspiré au poète Legouvet le plus beau de ses vers. Des bourreaux l'ont absous, des juges l'ont frappé. Monsieur de Sombreuil avait laissé un fils très distingué par son caractère et par sa bravoure. Il commandait un des régiments venus d'Angleterre à Quiberon vers la fin de 1795. La Convention nationale ayant violé la capitulation souscrite par le général Hoche, M. de Sombreuil reçut la mort comme un brave. Il ne voulut pas qu'on lui bandât les yeux et commanda lui-même le feu. Tallien, au moment de l'exécution, lui dit « Monsieur, vous êtes d'une famille bien malheureuse. » « J'étais venu la venger, répondit Monsieur de Sombreuil, mais je ne puis que l'imiter. » Madame Brongniart me menait promener derrière les Invalides. Il y avait tout près de là quelques maisons de paysans. Comme nous étions assises contre une de ces masures, nous entendîmes causer entre eux deux hommes qui ne pouvaient nous voir. « Veux-tu gagner 10 francs ? Disait l'un. « Viens avec nous faire le train. Il ne s'agit que de crier « Abat celui-ci, abat celui-là » et surtout de crier bien fort contre Caillonne. « 10 francs sont bons à gagner, répondait l'autre, mais n'aurons-nous pas des taloches ?»« Allons donc, reprit le premier, c'est nous qui les donnons, les taloches. » Vous jugez de l'effet que faisaient sur moi de pareils dialogues. Le lendemain du jour dont je vous parle, nous passions devant la grille des Invalides, où se trouvait une foule immense, composée de ce vilain monde qui se promenait habituellement sous les galeries du Palais-Royal. Tous gens sans aveu et sans habits, qui n'étaient ni ouvriers ni paysans, auxquels on ne pouvait supposer un état, sinon celui de bandits, tant leurs figures étaient effrayantes. Madame Brongniart, plus courageuse que moi, s'efforçait de me rassurer. Mais j'avais une telle peur que je reprenais le chemin de la maison quand nous vîmes arriver de loin une jeune personne à cheval qui portait un habit d'amazone et un chapeau ombragé de plumes noires. À l'instant, l'horrible bande forme la haie de deux côtés pour laisser passer au milieu d'elle la jeune personne que suivaient deux piqueurs à la livrée d'Orléans. Je reconnus aussitôt cette belle Pamela. Elle a épousé depuis Lord Fitzgerald, dont elle est veuve maintenant, car elle vit encore, mais bien changée, que Madame de Genlis avait amenée chez moi. Elle était alors dans toute sa fraîcheur et vraiment ravissante. Aussi entendions-nous toute la horde crier « Voilà, voilà celle qu'il nous faudrait pour reine !» Pamela allait et revenait sans cesse au milieu de cette dégoûtante populace, ce qui me donna bien tristement à penser. Peu après, je retournais chez moi, mais je ne pouvais y vivre. La société me semblait être en dissolution complète et les honnêtes gens sans aucun appui, car la garde nationale était si singulièrement composée qu'elle offrait un mélange aussi bizarre qu'il était effrayant. Aussi, la peur agissait-elle sur tout le monde. Les femmes grosses que je voyais passer me faisaient peine. La plupart avaient la jaunisse de frayeur. J'ai remarqué au reste que la génération née pendant la Révolution est en général beaucoup moins robuste que la précédente. Que d'enfants, en effet, à cette triste époque, ont dû naître faibles et souffrants. Monsieur de Rivière, chargé d'affaires de la Saxe, dont la fille avait épousé mon frère, vint m'offrir de me donner l'hospitalité, et je passai chez lui 2 semaines au moins. C'est là que je vis porter le bus du duc d'Orléans et celui de M. Necker, qu'une nombreuse populace suivait, en proclamant à grands cris que l'un serait leur roi et l'autre leur protecteur. Le soir, ces honnêtes gens revinrent. Ils mirent le feu à la barrière qui se trouvait au bout de notre rue, la rue Chaussée-d'Antin, puis ils dépavèrent, ils établirent des barricades en criant « Voilà les ennemis qui arrivent !» Les ennemis n'arrivaient point. Hélas, ils étaient dans Paris. Quoique je fusse traité chez M. de Rivière comme un de ses enfants et que je pusse me croire en sûreté chez lui puisqu'il était ministre étranger, mon parti était pris de quitter la France. Depuis plusieurs années, j'avais le désir d'aller à Rome. Le grand nombre de portraits que je m'étais engagé à faire m'avait seul empêché jusqu'alors d'exécuter mon projet. Mais si l'instant de partir devait jamais arriver pour moi, certes, il était venu, je ne pouvais plus peindre. Mon imagination attristée, flétrie par tant d'horreurs, cessait de s'exercer sur mon art. D'ailleurs, des libelles affreux pleuvaient sur mes amis, sur mes connaissances, sur moi-même, hélas. Et, quoique grâce au ciel, je n'eusse jamais fait de mal à personne, je pensais un peu comme celui qui disait « On m'accuse d'avoir pris les tours de Notre-Dame ». Elles sont encore en place, mais je m'en vais, car il est clair que l'on m'en veut. Je laissai plusieurs portraits commencer, entre autres celui de Mademoiselle Contat. Je refusai aussi, dans ce moment, de peindre Mademoiselle de la Borde, depuis Duchesse de Noailles, que son père m'amena. Elle avait à peine 16 ans et elle était charmante. Mais il ne s'agissait plus de succès, de fortune, il s'agissait seulement de sauver sa tête. En conséquence, je fis charger ma voiture et j'avais mon passeport pour partir le lendemain avec ma fille et sa gouvernante, lorsque je vis entrer dans mon salon une foule énorme de gardes nationaux avec leurs fusils. La plupart d'entre eux étaient ivres, mal vêtus, et ils portaient des figures effroyables. Quelques-uns s'approchèrent de moi et me dirent dans les termes les plus grossiers que je ne partirais point, qu'il fallait rester. Je répondis que, chacun étant appelé alors à jouir de sa liberté, je voulais en profiter pour mon compte. À peine m'écoutaient-ils, répétant toujours « Vous ne partirez pas, citoyenne, vous ne partirez pas !» Enfin, ils s'en allèrent. Je restai plongée dans une anxiété cruelle quand j'en vis rentrer deux qui ne m'effrayèrent pas, quoiqu'ils fussent de la bande, tant que je reconnus vite qu'ils ne me voulaient point de mal. « Madame, me dit l'un, nous sommes vos voisins. Nous venons vous donner le conseil de partir et de partir le plus tôt possible. Vous ne pourriez pas vivre ici, vous êtes si changés que vous nous faites de la peine. » La veille de mon départ, j'allais chez ma mère qui ne me reconnut qu'à mon son de voix. Il n'y avait pas 3 semaines que nous nous étions vus. « Mais n'allez pas dans votre voiture, partez par la diligence, c'est bien plus sûr. » Je les remerciai de tout mon cœur et je suivis leurs bons avis. J'en voyais donc retenir 3 places, voulant toujours emmener ma fille, qui avait alors 5 ou 6 ans. Mais je ne pus les avoir que 15 jours plus tard, tout ce qui émigrait partant comme moi par la diligence. Enfin, ce jour si attendu fut le 5 octobre, le jour même où le roi et la reine furent amenés de Versailles à Paris au milieu des piques. Mon frère fut témoin de l'arrivée de leur majesté à l'hôtel de ville. Il entendit le discours de M. Bailly, et comme il savait que je devais partir dans la nuit, il revint chez moi vers 10 heures du soir. « Jamais, me dit-il, la reine n'a été plus reine qu'aujourd'hui, lorsqu'elle est entrée d'un air si calme et si noble au milieu de ses énergumènes. » Puis il me rapporta cette belle réponse qu'elle avait faite à M. Bailly. « J'ai tout vu, tout su, et j'ai tout oublié. » Les événements de cette journée m'accablaient d'inquiétude sur le sort de leur majesté et sur celui des honnêtes gens, en sorte qu'à minuit, on me traîna à la diligence dans un état qui ne peut se décrire. Je redoutais extrêmement le faubourg Saint-Antoine que j'allais traverser pour gagner la barrière du trône. Mon frère, le bon Robert et mon mari m'accompagnèrent jusqu'à cette barrière, sans quitter un instant la portière de la diligence. Ce faubourg, dont nous avions une si grande peur, était d'une tranquillité parfaite. Tous ses habitants, ouvriers et autres, avaient été à Versailles chercher la famille royale, et la fatigue du voyage les tenait tous endormis. J'avais en face de moi, dans la diligence, un homme extrêmement sale et puant comme la peste, qui me dit fort simplement avoir volé des montres et plusieurs effets. Heureusement, il ne voyait rien sur moi qui pût le tenter, car je n'emportais que très peu de linge et 80 louis pour mon voyage. J'avais laissé à Paris mes effets, mes bijoux, et le fruit de mon travail était resté dans les mains de mon mari, qui dépense à tout. J'ai vécu dans l'étranger des portraits que je faisais. Bien loin que M. Lebrun m'ait jamais fait passer de l'argent, il m'écrivait des lettres si lamentables sur sa détresse que je lui envoyais 1 fois 1000 écus et 1 autre fois 100 louis, de même que plus tard j'envoyais la même somme à ma mère. Ainsi que je vous l'ai déjà dit. Le voleur ne se contentait pas de nous raconter ses hauts faits, il parlait sans cesse de mettre à la lanterne tels ou tels gens, nommant ainsi une foule de personnes de ma connaissance. Ma fille trouvait cet homme bien méchant. Il lui faisait peur, ce qui me donna le courage de dire « Je vous en prie, monsieur, ne parlez pas de meurtre devant cet enfant. » Il se tut et finit par jouer à la bataille avec la petite. Il se trouvait en outre, sur la banquette où j'étais assise, un forcené jacobin de Grenoble, âgé de 50 ans environ, laid, au teint bilieux, qui, chaque fois que nous arrêtions dans une auberge pour dîner ou pour souper, se mettait à pérorer dans son sens de la plus terrible façon. Dans toutes les villes, une foule de gens arrêtait la diligence pour apprendre des nouvelles de Paris. Notre jacobin s'écriait alors « Soyez tranquilles, mes enfants !» Nous tenons à Paris le boulanger et la boulangère. On leur fera une constitution. ils seront forcés de l'accepter et tout sera fini. » Les gobe-mouches dont on montait ainsi les têtes croyaient cet homme comme un oracle. Tout cela me faisait cheminer bien tristement. Je ne craignais plus pour moi-même, mais je craignais pour tous, pour ma mère, mon frère, mes amis. Je tremblais aussi sur le sort de leur majesté, car tout le long de la route, presque jusqu'à Lyon, des hommes à cheval s'approchaient de la diligence pour nous dire que le roi et la reine étaient massacrés, que Paris était en feu. Ma pauvre petite fille devenait toute tremblante. Elle croyait voir son père et notre maison brûler, et quand mes efforts parvenaient à la rassurer, arrivait bientôt un autre homme à cheval qui nous répétait ses horreurs. Enfin, j'entrai dans Lyon. Je me fis conduire chez M. Artaud, négociant, que j'avais quelquefois reçu chez moi, à Paris, ainsi que sa femme. Je les connaissais peu tous deux, mais ils m'avaient inspiré de la confiance, vu que nos opinions étaient entièrement les mêmes sur tout ce qui se passait alors. Mon premier soin fut de leur demander s'il était vrai que le roi et la reine eussent été massacrés, et, grâce au ciel, pour cette fois, on me rassura. Monsieur et Madame Artaud eurent d'abord quelque peine à me reconnaître, non seulement parce que j'étais changée à un point inimaginable, mais aussi parce que je portais le costume d'une ouvrière mal habillée, avec un gros fichu me tombant sur les yeux. J'avais eu lieu dans la route de m'applaudir d'avoir pris cette précaution. Je venais d'exposer au salon le portrait qui me représente avec ma fille dans mes bras. J'avais fait ce portrait pour Monsieur d'Angevilliers. Il a été soustrait à son propriétaire lors de l'émigration et porté depuis au ministère de l'Intérieur. Le Jacobin de Grenoble parla de l'exposition et fit même l'éloge de ce portrait. Je tremblais qu'il ne me reconnût. J'employai toute mon adresse à lui cacher mon visage. Grâce à ce soin et à mon costume, j'en fus quitte pour la peur. Je passai 3 jours à Lyon dans la famille Artaud. J'avais grand besoin de ce repos. Mais à l'exception de mes hôtes, je ne vis personne de la ville, désirant conserver le plus strict incognito. Monsieur Artaud arrêta pour moi un voiturier, auquel il dit que j'étais sa parente. Il me recommanda fortement à ce brave homme, qui eut en effet, pour moi et pour ma fille, tous les soins imaginables. Je ne puis vous dire ce que j'éprouvais en passant le pont Beauvoisin. Là seulement je commençais à respirer, j'étais hors de France, de cette France qui pourtant était ma patrie et que je me reprochais de quitter avec joie. L'aspect des monts parvint à me distraire de toutes mes pensées, je n'avais jamais vu de haute montagne. Celles de la Savoie me parurent toucher au ciel avec lequel un épais brouillard les confondait. Mon premier sentiment fut celui de la peur, mais je m'accoutumai insensiblement à ce spectacle et je finis par admirer. Le paysage du chemin des échelles me ravit. Je crus voir la galerie des Titans et je l'ai toujours appelée ainsi depuis. Voulant jouir plus complètement de toutes ces beautés, je descendis de voiture. Mais à moitié du chemin à peu près, je fus saisi d'une grande terreur, car on exploitait au moyen de la poudre une partie de rocher. Il en résultait l'effet d'un millier de coups de canon, et ce bruit, se répétant de roche en roche, était infernal. Je montai le Mont-Cenis, comme plusieurs étrangers le montaient aussi. Un postillon s'approcha de moi. « Madame devrait prendre un mulet, me dit-il, car monter à pied, c'est trop fatigant pour une dame comme elle. » Je lui répondis que j'étais une ouvrière, bien accoutumée à marcher. « Ah !» reprit-il en riant, « Madame n'est pas une ouvrière, on sait qui elle est. »« Eh bien, qui suis-je donc ?» demandai-je. « Vous êtes Madame Lebrun, qui peint dans la perfection, et nous sommes tous très contents de vous savoir loin des méchants. » Je n'ai jamais pu deviner comment cet homme avait pu savoir mon nom, mais cela m'a prouvé combien les Jacobins avaient d'émissaires. Heureusement, je ne les craignais plus, j'étais hors de leur exécrable puissance. À défaut de patrie, j'allais habiter des lieux où fleurissaient les arts, où régnait l'urbanité. J'allais visiter Rome, Naples, Berlin, Vienne, Pétersbourg, et surtout, ce que j'ignorais alors, cher ami, surtout, j'allais vous trouver, vous connaître et vous aimer.